et c'est l'heure du journal de France Culture. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Laurent Wauquiez élu à la tête de Les Républicains avec près de 75% des voix. Le clivage droite-gauche est-il en train de réapparaître ? Analyse avec Jérôme Fourquet, directeur du département opinion à l'IFOP. En Corse, la coalition nationaliste emporte les élections territoriales. 56,5% des suffrages. Le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, souhaite construire une solution politique, dit-il, qui permette de tourner la page d'une phase de conflit qui dure selon lui depuis 50 ans, nous l'entendrons, ainsi que l'analyse de Sophie Delpont. Le Premier ministre israélien à Bruxelles, la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël rend selon lui la paix possible. L'Union européenne déclare rester fidèle au consensus international sur la question de Jérusalem. Correspondance est suivie de cette visite avec Pierre Benazé, donc à Bruxelles. Vladimir Poutine, lui, est en visite sur la base de l'armée russe en Syrie, près de Latakié, avant de se rendre au Caire et en Turquie, précisément. Décision de Claude Bruyau. Et puis le ministre de la Culture et de l'Éducation nationale présentait ce matin un plan chorale dont l'ambition est d'instaurer une chorale par école à la rentrée 2019. C'est un dossier suivi pour nous par Cécile de Kervas-Doué. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Gesbert.
Nous recevons l'historien Benjamin Stora, auteur entre autres de la guerre d'Algérie vue par les Algériens aux éditions de Noël. Il est notre invité une semaine après la visite d'Emmanuel Macron à Alger. C'était donc le 6 décembre dernier. On va revenir ensemble sur le passé, mais aussi l'avenir des relations France-Algérie dans la deuxième partie de l'émission.
La droite de retour, donc, affirmation en tout cas du nouveau président de Les Républicains, Laurent Wauquiez, élu sans surprise au premier tour avec près de 75% des voix. Les chantiers ne vont pas manquer pour le nouveau président. Éviter la fuite des modérés, s'opposer évidemment à Emmanuel Macron, tenter de siphonner, comme on dit, les électeurs du Front National et puis préparer les prochaines échéances qui sont les élections européennes. Jérôme Fourquet, bonjour.
Bonjour.
Résultat sans surprise, comment est-ce que vous caractériseriez le positionnement politique de Laurent Wauquiez ?
C'est un positionnement de droite décomplexée qui s'inscrit un petit peu dans la droite ligne de ce qu'avait défini Nicolas Sarkozy il y a quelques années maintenant, mais à ceci près que le contexte a énormément évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le clivage gauche-droite n'a pas disparu, on le voit, mais il n'est plus premier, n'est plus central. Et donc c'est toute la difficulté pour Laurent Wauquiez, c'est d'arriver à surnager et à exister dans un nouveau paysage politique qui est encore en voie de reconfiguration après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle.
C'est un positionnement, disons, identitaire qui permet de s'opposer à Macron, quand bien même les différences sur l'économie et le social ne sont pas si grandes que ça. En tout cas, elles ne sont pas mises en avant.
Mais c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que les successeurs de Nicolas Sarkozy avaient en face d'eux un président, François Hollande, qui était bien identifié à gauche. Là, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On voit qu'on a à peu près la moitié des sympathisants des Républicains. Donc c'est pas les adhérents qui ont voté hier, hein, c'est les sympathisants qui se disent satisfaits d'Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets, qu'il s'agisse des réformes économiques et sociales, mais aussi, par exemple, sur ce que peut faire M. Blanquer à l'éducation nationale. Et donc, du coup, pour surnager et continuer d'exister, Laurent Wauquiez doit se démarquer. Et donc, c'est sur le champ, sans doute, identitaire, régalien, on les appelle comme ça pour aller un petit peu vite, que les différences peuvent être les plus marquées. Le rapport à la construction européenne, au communautarisme, la question de la laïcité, autant de sujets où des clivages peuvent se faire jour avec Emmanuel Macron.
Est-ce qu'il peut prendre les voix, enfin les électeurs du Front National en grande partie, selon
vous ? En grande partie, c'est compliqué. C'est une stratégie qui s'offre à lui en partant du constat que toute une partie de la branche ou de la frange modérée de l'électorat de droite ou de centre-droit est déjà ou est en train de rallier peu ou prou l'orbite macronienne. Et donc, si la droite veut peser aux alentours de 20-25% pour aspirer peut-être à un moment recomposer autour d'elle et être au deuxième tour, il faut absolument agréger au noyau de 15% d'électeurs de droite et ben d'autres électeurs. Et où y en a-t-il aujourd'hui potentiellement disponible, plutôt du côté de ceux qui sont partis vers le Front National?
Donc, ce n'est pas forcément un mauvais calcul, entre guillemets, sur le plan purement politique.
À terme, alors, après, chacun jugera, mais il prend acte de la situation nouvelle qui s'impose quand même un petit peu à lui, avec des transfuges assez nombreux en direction de la majorité présidentielle.
Il n'y a pas eu de surprise non plus hier en Corse, où la coalition nationaliste de l'autonomiste Gilles Simeoni et de l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni emporte donc ces élections territoriales, 56,5% des suffrages. Ça fait évidemment une très large majorité dans ce Parlement. Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, souhaite, sur France Info, construire une solution politique. On l'écoute.
Ce que nous souhaitons, c'est un cadre formalisé, c'est un ordre du jour à définir en commun, mais qui, à notre sens, doit comporter les revendications fondamentales à propos desquelles les Corses nous ont mandatés par leur vote. Vous savez que nous voulons une Corse apaisée, nous voulons une Corse qui respire, nous voulons une Corse qui se construit au plan économique, social, culturel. Et nous avons également, dans notre projet, au-delà des revendications fondamentales qui nous portent depuis des décennies, une demande de statut, d'autonomie, de plein droit et de plein exercice. Mmh. Et puis au-delà de cet aspect institutionnel, des revendications parmi lesquelles, vous l'avez rappelé dans vos titres, celle de la question du rapprochement des prisonniers politiques et à terme de l'amnistie.
Voilà, Gilles Simeoni, donc ce matin sur France Info, Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Solution politique pour tourner la page d'un conflit, dit-il, qui dure depuis 50 ans. Finalement, quelle est la solution des nationalistes à ce conflit?
Alors, comme le dit l'autonomiste Gilles Simeoni, il souhaite une Corse qui se construit sur le plan économique et culturel. Jean-Guy Talamoni, le président indépendantiste en titre de l'Assemblée de Corse, qui s'était illustré au début de l'année dernière en qualifiant la France de pays ami, avait déjà réclamé à l'époque l'ouverture de négociations tout en menaçant d'organiser des manifestations populaires, selon ses mots, ajoutant qu'il ferait le tour des capitales européennes en cas de déni de démocratie, toujours selon ses mots. Grâce à son succès, la liste P à Corsica va obtenir maintenant la majorité au sein du mini-gouvernement corse, c'est-à-dire dans l'enceinte de la nouvelle assemblée territoriale qui remplacera en janvier les deux conseils départementaux et l'actuelle collectivité territoriale corse. Une occasion en or donc pour aller vers une autonomie de l'île de Beauté.
Alors c'est une exigence, enfin l'ensemble, certaines exigences en tout cas seront assez difficiles à accepter pour le chef de l'État.
Situation effectivement hautement délicate pour Emmanuel Macron qui devra à la fois en même temps, selon l'élection, la formule consacrée, dialoguer mais éviter de se laisser déborder et décourager aussi indirectement les volontés autonomistes au sein de la République dans un contexte de préparation du référendum d'autodétermination de Nouvelle-Calédonie. Et alors que la Catalogne est dans tous les esprits. Sur les revendications, Gilles Simeoni les explique très clairement. Il déclare qu'il souhaite pour la Corse un statut comparable à celui de la Polynésie française ou à un autre niveau de la Nouvelle-Calédonie. Que pour lui, il doit y avoir demain un partage clair entre ce qui relève du régalien, la police, la justice, l'armée, les affaires étrangères et les domaines où progressivement les institutions de la Corse devront se voir reconnaître un pouvoir législatif de plein droit, notamment dans les domaines de la compétence fiscale et de l'économie en général. Il ajoute enfin viser un objectif de moyen terme, 3 ans pour construire et obtenir ce statut d'autonomie, 10 ans pour le mettre en œuvre dans le cadre d'un partenariat et d'un dialogue avec le gouvernement.
Merci beaucoup Sophie Delpont. Un petit mot là-dessus, Jérôme Fourquet également. Élections Corse, est-ce qu'elles peuvent s'inscrire dans un mouvement plus global qu'on appelle de repli nationaliste ou de souverainisme qui serait en cours dans toute l'Europe?
Alors là aussi, repli, ça dépend le point de vue qu'on adopte.
C'est pour ça que j'ai dit souverainiste
voilà.
Aussi.
En tout cas, un phénomène d'affirmation, on peut penser voilà, dans un contexte de globalisation qui touche toutes les vieilles nations, eh bien, on a l'émergence, ou en tout cas la réaffirmation, parce que ce n'est pas une émergence, en Catalogne, en Écosse, en Corse, au Pays Basque, des Basques français défilaient ce
et
week-end.
Et même en Vénétie.
Voilà, et en Vénétie, il y a eu un référendum également. Donc cette volonté, alors, à la fois de davantage d'autonomie, gérer au plus près les affaires qui nous concernent, et puis aussi défendre ou revendiquer une identité, une spécificité, encore une fois, dans un cadre général qui apparaît de plus en plus globalisant à des populations qui sont très attachées à un certain nombre de particularismes, qu'il s'agisse de la langue, de la culture ou de l'identité, par exemple.
Pour la Corse, vous avez l'impression qu'on est dans une logique qui conduit à l'indépendance?
Alors, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Gilles Simeoni a rappelé à de nombreuses reprises que la Catalogne, ce n'était pas la Corse. Ce qu'il faut néanmoins observer, c'est que en 2015, les régionalistes ont gagné avec 35% des voix. Cette année, ils s'imposent avec 56% des voix. Donc, il y a même si une abstention importante, une majorité absolue des électeurs corses qui ont voté pour davantage d'autonomie et pour une plateforme qui fait quand même la part belle à des revendications anciennes portées par les nationalistes.
Jérôme Fourquet, merci beaucoup. On vous retrouve donc à la fin de cette édition. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne recevaient ce matin à Bruxelles le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui affirme que la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël rend la paix possible, car selon lui, reconnaître la réalité, c'est bien le fondement de la paix. Mais apparemment, l'Europe ne l'entend pas ainsi. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et la représentante de la diplomatie européenne rappelle, elle, que l'Union européenne reste fidèle au consensus international sur cette question de Jérusalem et aussi, bien sûr, sur la solution à deux États.
Oui, et il y a d'abord dans cette rencontre de Benjamin Netanyahou avec les ministres européens des Affaires étrangères une opposition frontale de deux partenaires aux relations historiquement très tendues qui campent ce matin sur leur position. Le Premier ministre israélien est arrivé ici avec pour lui le sens de la victoire diplomatique que constitue à ses yeux la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël, alors qu'en face, les Européens veulent à tout prix maintenir ce consensus que constitue pour eux le respect des résolutions des Nations Unies. Ils restent sur le principe de Jérusalem comme capitale à terme à la fois de la Palestine et d'Israël. Pour le Premier ministre israélien, les 28 devraient eux aussi suivre le mouvement entamé par Donald Trump et déménager eux-mêmes leurs ambassades de Tel Aviv à Jérusalem. Pour les Européens, c'est hors de question. Le seul à évoquer cette possibilité est le président tchèque, Miloš Zeman, qui n'est pas suivi par son gouvernement, mais qui, à l'instar de Benjamin Netanyahou, traite l'UE d'hypocrite en ce qu'elle ne condamne en revanche pas assez les attaques palestiniennes contre Israël. Les Européens continuent à reprocher, entre autres, la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens ou encore les destructions par Tsahal d'infrastructures financées par l'Union. Mais il faut cependant bien souligner qu'ils ont du mal à maintenir un consensus large car de nettes divisions existent entre eux sur le sujet. Il y a par exemple l'Allemagne qui reste un ferme allié diplomatique d'Israël, la Suède qui choisit de reconnaître l'État palestinien ou encore la Hongrie qui a bloqué la semaine dernière une déclaration qui aurait condamné fermement et formellement au nom des 28 la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale israélienne.
Pierre Benazet, merci beaucoup, en direct de Bruxelles. Pendant ce temps, Vladimir Poutine tente de profiter de cette nouvelle donne proche et moyenne-orientale, résultat de la reconnaissance donc par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et le président russe atterrissait ce matin sur la base de l'armée russe en Syrie près de Latakié, accueilli d'ailleurs par le dirigeant syrien Bachar al-Assad. Poutine ordonne le retrait d'une partie du contingent militaire russe en Syrie. Et après cette étape, eh bien, il se rendra au Caire, puis en Turquie. Claude Bruyot, quel est l'objectif de cette mini-tournée ?
Nous n'oublierons jamais les sacrifices et les pertes. Les soldats russes qui retournent dans leur patrie reviennent avec la victoire. C'est un Vladimir Poutine au verbe triomphant qui a pris la parole ce matin sur la base aérienne de Khmeimim où sont stationnées une partie des troupes russes, fortes d'environ 5000 hommes, engagées donc depuis 2 ans dans le conflit syrien aux côtés des forces gouvernementales d'Al-Assad. Le discours sera forcément différent tout à l'heure à Ankara, puisque dès jeudi dernier, le Kremlin avait fait le point par téléphone avec Erdogan, sur le dossier syrien évidemment, mais également pour évoquer la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Tout porte à croire que les efforts de Vladimir Poutine s'orienteront maintenant vers une condamnation la plus large possible de la décision américaine, agglomérant du même coup l'Égypte de Sissi, où le président russe enchaînera un troisième stop dans la journée, sans doute l'étape la plus délicate pour le maître du Kremlin. 2 ans après l'attentat contre un Airbus d'une compagnie russe qui avait fait 224 victimes en Égypte, cette visite de Vladimir Poutine au Caire a aussi pour but de normaliser les relations au point mort jusqu'ici entre les deux pays.
Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Vous êtes l'invité à la dernière partie de la Grande Table. Est-ce que cette reconnaissance américaine change, selon vous, la donne au Proche-Orient ?
Change quelque chose ? Oui et non. Ça change la donne parce que Donald Trump, effectivement, en décidant ce transfert d'ambassade, se retrouve isolé au plan international. Donc ça a suscité naturellement un tollé. Et le président Emmanuel Macron a regretté vivement, disons, cette décision. Mais ce qui est intéressant à constater dans l'immédiat, c'est le fait que le mouvement national palestinien n'a pas encore réussi à relever ce défi. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore assisté à de grosses mobilisations sur le terrain politique, dans le refus, disons, de cette décision américaine. Et là, on voit que les Palestiniens subissent quelque part le contre-coup de ce qui se passe en Syrie, au Liban, en Irak, etc. C'est-à-dire que la centralité de la question palestinienne dans le monde arabe se déplace. Et peut-être qu'à la faveur de ce décentrement, eh bien, Donald Trump a profité, disons, de l'ouverture pour pouvoir faire et opérer ce déplacement.
Merci Benjamin Stora, vous restez avec nous aussi pour la suite de cette édition. On vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table.
France Culture Midi 45, la suite de votre journal Antoine Mercier. La ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation nationale ont présenté ce matin un plan choral dont l'ambition est d'instaurer une chorale par école à la rentrée 2019.
Pour Jean-Michel Blanquer, invité de France Musique avec Françoise Nyssen ce matin, la musique et la lecture font partie des priorités pour que l'école soit un lieu où les élèves vont avec bonheur, avec confiance, chanter ensemble, dit-il, s'écouter, apprendre, c'est un socle. Cécile de Cabazdoué, bonjour.
Bonjour.
Bon, on voit là effectivement la visée du gouvernement avec cette mesure chorale. Laquelle est-elle plus précisément?
Mais comme avec tous les plans chorales finalement, l'idée c'est de créer une chorale dans un collège sur deux à la rentrée 2018 et 100% des collèges et écoles en 2019 afin de proposer aux élèves 2 heures de chant par semaine, mais de façon optionnelle, dit le ministère d'Éducation, c'est-à-dire comme une langue ancienne. Pour le ministre de l'Éducation, il faut marcher sur deux pieds, l'effort et le plaisir, et la musique serait donc le moyen d'y parvenir. La ministre de la Culture, de son côté, avait déjà défendu à l'Assemblée nationale, début novembre dernier, une politique culturelle de proximité qui doit permettre, dit-elle, de rattraper tous les exclus. Via la musique, on peut transmettre les bienfaits de l'écoute et du collectif. Alors dans tout ça, vous n'entendez pas grand-chose de nouveau, hein, finalement. En 2000, un vaste plan choral avait d'ailleurs déjà été lancé au niveau des départements, avec exactement les mêmes objectifs et les mêmes principes. Et si on lit la circulaire de l'époque, eh bien, on voit que le plan prévoyait alors, comme aujourd'hui, la formation des enseignants, l'intervention d'artistes musiciens, une collaboration avec les conservatoires et les institutions culturelles, ce à quoi il faut rajouter depuis la création d'un site internet spécifique, Musique Prime, qui donne aux enseignants tout le matériel pédagogique nécessaire à la création d'une chorale d'élèves, qu'ils soient musiciens ou non musiciens. Normalement, avec tout ça, depuis 17 ans, on devrait avoir des chorales scolaires un petit peu partout en France. Or, aujourd'hui, il n'y en a qu'une dans un établissement sur 4. Seulement.
Alors, est-ce que ça va s'arranger? Et la question est de savoir si les moyens, effectivement, vont suivre maintenant.
Mais c'est toujours la question. Le gouvernement a effectivement annoncé débloquer 20 millions d'euros. 17 millions seront pris en charge par l'Éducation nationale pour rémunérer la formation, les heures supplémentaires des enseignants. Et 3 millions par le ministère de la Culture qui compte, avec cette enveloppe, faire intervenir les conservatoires dans les établissements scolaires, c'est-à-dire des professionnels de la musique. De quoi soulever finalement la véritable question, celle du temps. Parce qu'on ne devient pas musicien en un jour, ni chef de chœur en une semaine de formation, surtout lorsque le plan choral prévoit de faire chanter aux élèves 20% de musique savante. Et ça, pas sûr que ce nouveau plan choral en ait vraiment conscience, lorsqu'on entend par exemple la ministre de la Culture déclarer ce matin « ce sera facile à mettre en place ».
Voilà, mais peut-être qu'avec vous, vous allez pouvoir donner un coup de main, Cécile, puisque vous êtes Exactement. Une chanteuse émérite. Merci beaucoup. La musique censée adoucir les mœurs, pas forcément celle de Johnny Hallyday. La musique de Johnny Hallyday, si l'on en croit cette récente polémique qui s'est développée depuis hier sur les réseaux sociaux au sujet de propos tenus par Alain Finkielkraut hier sur RCJ, Alain Finkielkraut qui dit regretter que la cérémonie populaire en hommage à Johnny Hallyday ait souligné les fractures de la société française. On réécoute.
Le petit peuple des petits blancs est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et il était seul. Les non-sous-chiens...
Vous voulez dire que les banlieues n'étaient pas de Charlie.
Les non-sous-chiens...
N'étaient pas Johnny, pardon.
Les non-sous-chiens brillaient par leur absence.
Comment vous voulez...
Le divertissement, autrement dit... prend presque toute la place, mais il ne fait plus lien. Il ne remplit plus la fonction sociale que lui reconnaissait Proust. Il y a mauvaise musique et mauvaise musique. Le rock et le rap, le rock hexagonal et le rock planétaire. Ce qui transporte les vieux et ce qui fédère les jeunes. Ce qui fait le bonheur de la périphérie et ce que plébiscitent les banlieues. La France déculturée est une France fragmenté.
Alain Finkielkraut, donc avec Elisabeth Lévy, Benjamin Stora, un petit mot là-dessus, parce que vous n'y étiez pas non plus à cet hommage à Johnny plutôt samedi.
Mais qu'est-ce qui vous dit que j'y étais pas?
Ah, je sais pas, je pose la question.
C'est une vraie question, parce que j'ai discuté de ça justement avec un ami à moi qui est fondateur de Beurre FM, de Radio Beurre, qui s'appelle Nasser Kétan, qui était là, lui avec ses enfants, pas moi, mais lui était là avec ses enfants. Et c'est parce que c'est sa génération et il y avait d'autres gens, comme on dit entre guillemets, des banlieues en fait d'origine algérienne, qui étaient là aussi et qui ont été tous très choqués par la déclaration d'Alain Finkielkraut lorsqu'il a expliqué ce matin ou hier que dans le fond, eh bien, il n'y avait pas, on a tous compris quand même, indépendamment des références à Proust, à je ne sais quoi, ils ont tous compris quand même que, d'ailleurs, Elisabeth Lévy l'a fait remarquer, ils ont tous compris que les banlieues n'étaient pas là et que c'était le petit peuple blanc très seul, coupé, etc. Vous savez, la musique de Johnny Hallyday, c'est la musique qui a fait aimer aux Français une musique venant du sud des États-Unis, le blues des Noirs américains. C'est une musique du rock'n'roll américain et qui, disons, a transpercé la société française pendant 30, 40, 50 ans. Alors vouloir en faire aujourd'hui une musique réservée à des petits blancs exclusivement, franchement, c'est très choquant. Et d'autre part, s'il y a effectivement moins de jeunes qui étaient présents dans cette énorme, cette cet immense rassemblement, c'est parce que c'est une affaire de génération. J'écoutais ce matin le palmarès des chansons les plus écoutées sur Deezer. Je ne sais pas si vous avez écouté cela, mais les chansons les plus écoutées sur Deezer, à plus de 60%, c'est du rap. Parce que ce sont les jeunes qui, massivement, dans la société française, écoutent du rap. Et oui, c'est une affaire de génération. C'est un monde nouveau, c'est un monde qui change, c'est un monde en mouvement. Et il faudrait peut-être s'y intéresser davantage, sur toutes les antennes de radio, d'ailleurs, et dans la société en général. Alors vouloir saucissonner, séparer, isoler, opposer des fractions de la société à l'occasion de ce qui a été un hommage national, franchement, je trouve ça désolant.
Bon. Merci beaucoup, Benjamin Stora. On vous retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de la Grande Table et on revient vers notre invité Jérôme Fourquet pour revenir à cette situation politique. On en était à commenter l'élection de Wauquiez, l'élection également des nationalistes en Corse et la question de savoir si ce paysage politique allait être à nouveau, revenir vers un balancier droite-gauche plus traditionnel ou bien est-ce que l'arrivée d'Emmanuel Macron, le traumatisme qu'il a fait subir à l'ensemble de la classe politique est quelque chose qui finalement est durable, c'est une page nouvelle qui s'écrit et il va falloir maintenant compter peut-être avec d'autres clivages, mais plus avec les clivages anciens. Et quelle est votre position là-dessus, Jérôme Fourquet ?
Alors, il y a un historien à cette table, donc il faut être prudent sur ce que l'actualité immédiate. Néanmoins, on peut avoir le sentiment que ce qui s'est passé à la présidentielle puis aux législatives est quelque chose d'assez profond. Et que la recomposition politique est vraiment à l'œuvre. Édouard Philippe, récemment, lors du congrès de La République En Marche, avait utilisé la métaphore charpentière en disant que voilà, la poutre était encore en train de travailler. Je pense que c'est pas faux. Le clivage gauche-droite, bien évidemment, il n'a pas disparu, mais il était précédemment central. Aujourd'hui, il y a un autre clivage qui, lui non plus, n'était pas inexistant avant, ce qu'on pourrait appeler les tenants d'une société ouverte versus une société plus fermée, qui est montée en puissance, qui s'est imposée au clivage gauche-droite, hein, puisque les deux représentants de ce nouveau clivage étaient en finale de la présidentielle, ce qui n'était jamais arrivé par le passé. Et de là, s'est produit cette recomposition avec, si vous voulez, si on schématisait, un bloc central autour d'Emmanuel Macron qui pèse aujourd'hui entre 25 et 30% des voix, deux ailes frontistes et France Insoumise qui pèsent chacune à peu près 20%, et le reste, à gauche et à droite, aux alentours de 15% chacune, peut-être même un peu moins. C'est ce nouveau paysage qui est encore en gestation. Hein. Après un choc, les poussières, les scories n'ont pas fini de retomber et les choses ne sont pas complètement sédimentées. Et ce qui va servir aussi Emmanuel Macron, c'est que notre prochaine échéance électorale, c'est une échéance électorale qui portera sur l'enjeu européen et c'est le terrain par excellence de cette recomposition. D'ailleurs, on a bien vu Alain Juppé quelques semaines avant l'élection interne des Républicains qui s'est invité dans le débat en disant qu'il était d'accord avec de nombreux points d'Emmanuel Macron sur la question européenne et qu'il y aurait peut-être moyen de faire une liste commune. Donc on voit que cette recomposition, elle est en marche, si vous permettez l'expression.
Encore à l'œuvre. Mais tout de même, là, sur le discours officiel, c'est pas un discours ceux qui sont ouverts à la mondialisation puis ceux qui ne le sont pas, c'est le discours du premier de cordée, c'est-à-dire que ceux qui réussissent vont pouvoir tirer ou amener les autres à également monter. C'est la réalité de ce discours qui peut-être doit être jugé sur pièce par l'électorat qui est un peu en suspens oui. Par rapport à cette question.
Oui, tout à fait. Alors, les analyses ont bien montré hein, qu'Emmanuel Macron avait d'abord rassemblé des voix dans ce qu'on pourrait appeler la France qui va bien, qui va relativement bien, les diplômés, les habitants des grandes métropoles, des zones économiquement les plus dynamiques, et puis qu'il y avait toute une France plus décrochée, soit socialement ou économiquement, soit plus inquiète sur le plan identitaire et culturel, et qui ne se retrouvait pas dans le macronisme. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette situation nouvelle, ou cette ligne de fracture, elle n'est pas propre à la société française. On l'a vu au moment du Brexit en Grande-Bretagne, on l'a vu aussi dans l'affrontement Clinton-Trump aux États-Unis. Donc c'est des lignes de fracture qui parcourt toutes les sociétés occidentales et qui, avec lesquelles il va falloir compter à l'avenir.
Ouais, mais peut-être Benjamin Stora là-dessus, parce qu'on parle de ligne de fracture, alors qu'avant on parlait de partis qui se disputaient le pouvoir. Là, on a l'impression que la fracture est plus grande, pour revenir peut-être même à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des différentes Frances. Est-ce oui, que ce n'est pas quelque chose de plus grave que simplement la mise en place d'un nouveau clivage ?
Grave, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un mouvement de mondialisation. Et on parlait tout à l'heure de la Corse, par exemple. La question du jacobinisme français est directement posée à travers la question corse. C'est-à-dire que la ligne de clivage, c'est qu'on va trouver des gens qui se réclament de la gauche, qui sont absolument opposés à toute forme d'indépendance de la Corse. Absolument opposés. Et puis d'autres,
c'est
au contraire.
Comme pour la Catalogne,
mais bien sûr, même la Catalogne a profondément divisé la gauche, profondément, comme elle a divisé aussi la droite. Donc on a effectivement le modèle d'État-nation qui est en train d'être remis en question aujourd'hui par un mouvement, des mouvements de mondialisation, des mouvements de société, et qui transcende et dépasse complètement les clivages traditionnels droite-gauche.
Jean Fourquin, un dernier mot, ça va continuer selon vous, cette tendance à la fracturation ?
Alors c'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron.
Il va y avoir les élections en Catalogne, non, je parle en général, parce qu'il va y avoir les élections en Catalogne dans 10 jours,
ces questions...
où les nationalistes peut-être l'emporteront aussi.
Alors, oui, mais et puis ces questions-là, elles sont devant nous, on le voit, hein, même pour un hommage à Johnny Hallyday, tout de suite, il y a ces grilles de lecture qui peuvent être portées, donc on... Ça peut s'apaiser un moment, mais c'est tout ça est en permanence sous-jacent et ne demande qu'à remonter à la surface à la moindre occasion.
Merci beaucoup, Jérôme Fourquet, d'avoir accepté d'être avec nous pour cette édition. Une disparition, celle du président du comité éditorial, ancien patron du groupe Ouest France, décédé à l'âge de 88 ans, rédacteur en chef, c'est le rédacteur en chef qui l'annonce, il était François-Régis Hutin, donc c'est son nom, qui était longtemps à la tête du plus grand quotidien national français. La météo, journée perturbée, température de 5 à 19 degrés, il y a encore plusieurs dizaines de milliers de foyers qui sont privés d'électricité, notamment dans le centre du pays. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.